Laudetur Jesus Christus.
Le pape au chevet de la Birmanie, bouleversé par un coup d'État depuis le 1er février. Hier, le Saint-Père a présidé une messe avec les fidèles birmans. Nous y revenons juste après les titres. Dimanche sanglant à Gaza, la bande palestinienne lourdement pilonnée hier par Israël. 42 personnes tuées et le bilan est amené à s'alourdir. Nous retrouverons notre correspondante à Jérusalem. Et puis dans notre dossier en fin de journal, rendez-vous avec le père Neuhaus, supérieur des Jésuites de Terre Sainte. Il reviendra sur les blessures très anciennes et très profondes des peuples palestiniens et hébreux. Dans le reste de l'actualité, la reprise des violences en Afghanistan après la fin de la trêve avec les talibans. Puis une conférence de soutien à la transition démocratique au Soudan se tient aujourd'hui. Mais la politique s'incline face à l'économie. Explication à suivre.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a présidé hier une messe pour les fidèles de Birmanie, pays bouleversé par un coup d'État et des violences depuis le 1er février. Les ressortissants birmans de Rome et des environs étaient conviés à cette célébration autour du pape qui s'était rendu dans le pays en 2017 pour l'encourager sur la voie de la démocratie. Dans son homélie, François est revenu sur le verbe « garder » en développant sa réflexion autour de trois axes « garder la foi », garder l'unité et garder la vérité, le compte-rendu de Cyprien Viette.
Mentre il vostro amato paese, il Myanmar, è segnato dalla violenza, dal conflitto, dalla repressione.
Alors que votre bien-aimé pays, la Birmanie, est marqué par la violence, le conflit, la répression, nous nous demandons que sommes-nous appelés à garder, a questionné le pape. En premier lieu, nous sommes invités à garder la foi pour ne pas succomber à la douleur et ne pas tomber dans la résignation de ceux qui ne voient plus d'issue. Garder la foi, a poursuivi le successeur de Pierre, c'est ne pas céder à la logique de la haine, de la vengeance, mais garder le regard tourné vers ce Dieu d'amour qui nous appelle à être des frères entre nous. La deuxième priorité est de garder l'unité, car la division est une maladie mortelle.
La sperimentiamo nel nostro cuore, perché spesso siamo divisi anche noi stessi.
Nous l'expérimentons dans notre cœur parce que nous sommes souvent divisés aussi en nous-mêmes. Nous l'expérimentons dans les familles, dans les communautés, entre les peuples et même dans l'Église. Et ces petits conflits qui existent entre nous, a déclaré le Saint-Père, se reflètent ensuite dans les grands conflits comme celui que vit votre pays en ces jours-ci. Enfin, dernier axe de l'homélie du Saint-Père, garder la vérité, qui ne signifie pas défendre des idées, mais rester lié au Christ et être consacré à son évangile. Et là où il y a guerre, violence, haine, être fidèle à l'évangile et artisan de paix signifie s'engager également à travers les choix sociaux et politiques en risquant notre vie. Ce n'est qu'ainsi que les choses peuvent changer, insistait le pape François.
Cyprien Viette. Après la messe, le pape François a procédé à la prière du Regina Coeli depuis la fenêtre des appartements pontificaux. Le pape qui est revenu sur l'épisode de l'ascension du Christ. Habituellement, les scènes d'adieu sont tristes, mais pas celles avec les disciples, car ils savent que Jésus va monter au ciel et qu'ils vont partir en missionnaire. Tous ces détails sont à retrouver, bien sûr, sur notre site internet www.vaticannews.va. D'un ton grave, inquiet, après la prière, François est revenu sur le conflit qui dévore le Proche-Orient. Hier fut la journée la plus sanglante depuis une semaine. 42 Palestiniens sont morts à Gaza dans les frappes israéliennes. De nombreux innocents sont morts, a dénoncé François. Parmi eux se trouvent des enfants. En effet, depuis lundi, près de 200 Palestiniens sont morts, dont 58 enfants. Où nous mènerons la haine et la vengeance, a interrogé le pape, ajoutant prier sans cesse pour que les Israéliens et les Palestiniens trouvent le chemin du dialogue et du pardon. Sur place, la situation est dramatique. Faute d'électricité, la bande de Gaza a passé une partie de la nuit dans le noir et découvre ce matin les corps. Le bilan est donc amené à s'empirer. À Jérusalem, Valérie Ferron.
Depuis une semaine, les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza vivent dans la terreur permanente des bombardements israéliens qui pilonnent de jour comme de nuit toute l'infrastructure civile et continuent de cibler maisons et grands immeubles dans les quartiers résidentiels, détruisant ainsi commerces, banques, centres médicaux, bureaux d'associations et de médias locaux, arabes et occidentaux pour empêcher la diffusion des faits. Le réseau internet de la bande de Gaza a été lui aussi endommagé, compliquant la communication des Gazaouis avec l'extérieur. l'intérieur, ce qui n'empêche pas les réseaux sociaux d'être inondés de témoignages sur ce qui se passe réellement sur le terrain. La jeunesse palestinienne à Gaza, en Cisjordanie et en Israël étant très active dans cette guerre médiatique. Certains bombardements israéliens ont décimé des familles entières, dont 16 par des missiles ayant visé directement leur maison. Plus de 38 000 personnes sont actuellement accueillies dans une quarantaine d'écoles de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, alors que plus de 800 bâtiments et maisons ont été détruits et des milliers d'autres partiellement endommagés. Les réseaux d'eau et d'électricité étant aussi systématiquement ciblés, plus de 500 000 personnes actuellement ont des problèmes à se procurer de l'eau potable. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Après le bombardement par Israël des locaux de la télévision Al Jazeera et de l'agence de presse américaine AP, Reporters sans frontières a saisi hier la Cour de pénale internationale de justice, considérant que cela peut être un crime de guerre. Et nous reviendrons sur la situation au Proche-Orient en fin de journal dans notre dossier de la rédaction. En Afghanistan, le cessez-le-feu décrété pour la fin du Ramadan a expiré samedi et les combats ont repris dès hier dans plusieurs provinces du pays. Dans l'opinion publique, des voix s'étaient pourtant élevées pour qu'un arrêt permanent des combats soit mis en place, alors que le processus de paix reste au point mort. À New Delhi, Emmanuel Derville.
La pause des combats n'aura pas duré. Les embuscades et les attaques à la bombe des talibans contre les forces afghanes ont repris dès dimanche. Le gouvernement a même accusé les insurgés d'avoir enfreint le cessez-le-feu dans cette province samedi. Hier, plusieurs accrochages ont eu lieu dans les provinces de Ghazni, Kandahar et Lagman, dans l'Est et le Sud. De son côté, l'armée afghane a lancé une offensive dans la région du Helmand, dans le Sud, pour reprendre le contrôle de 3 districts. Pendant ce temps, le retrait des forces américaines se poursuit. L'appui aérien fourni par l'US Air Force va diminuer dans les prochaines semaines. Les observateurs estiment que les talibans vont poursuivre leur tactique d'encerclement des villes et qu'ils vont continuer à attaquer des bases et des postes militaires isolés jusqu'au départ définitif des troupes occidentales. Viendront ensuite des offensives de grande ampleur pour conquérir les principales villes. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Après plus d'un an de fermeture, l'Algérie desserre la vis et ouvre partiellement ses frontières. La décision est prise pour le 1er juin, a annoncé hier la présidence. Une réouverture dans le strict respect des mesures contre la Covid avertissent les autorités. Depuis mars 2020, plusieurs millions d'Algériens de l'étranger ont dû composer avec la fermeture des frontières et la suspension des vols commerciaux. La France réunit demain à Paris une trentaine de dirigeants africains et européens ainsi que des institutions multilatérales pour un sommet sur les économies africaines. Le but étant d'aider les pays d'Afrique à s'extraire du piège de la dette. À la veille de cette réunion, une conférence de soutien à la transition démocratique au Soudan se tient aujourd'hui dans la capitale française. Mais là aussi, l'objectif est davantage économique que politique, Adélaïde Patrignani.
Et oui, Marie Henriot, le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok l'a récemment expliqué dans un entretien à l'AFP. Cette réunion vise à régler les arriérés de la dette soudanaise avec ses bailleurs ou du moins à la rééchelonner. Depuis le début de son mandat il y a 2 ans après la révolution, Abdallah Hamdok s'est déjà acquitté de la dette contractée auprès de la Banque mondiale, soit 1,15 milliard de dollars. Idem pour les arriérés auprès de la Banque africaine de développement. Reste donc maintenant à se défaire de celle du Club de Paris, son principal créancier, auquel le pays doit 38% des 60 milliards de dollars de sa dette extérieure. Selon des experts, ce forum international sera aussi l'occasion de renforcer l'ancrage occidental et notamment français au Soudan. Ce vaste pays aux ressources pétrolières forme en effet un intéressant marché aux yeux des entreprises et un territoire à stabiliser aux portes de la poudrière sahélienne. Mais ces tractations économiques risquent de laisser de côté la population. C'est ce que l'on redoute au Soudan où les urgences assombrissent le tableau d'une transition réussie. Pénurie d'eau potable et d'essence, coupure d'électricité, coronavirus et invasion de criquets sur la mer Rouge continuent de plomber le quotidien des habitants.
Merci Adélaïde Patrignani. Les pays du G7 et de l'Union européenne sont en mesure de donner plus de 150 millions de doses de vaccins aux pays les plus pauvres via le mécanisme COVAX. C'est en tout cas ce qu'affirme l'UNICEF, un nombre qui pourrait être atteint si les pays les plus riches partageaient seulement 20% de leur stock. Actuellement, un tiers de la population des pays les plus aisés a déjà reçu une première dose de vaccin, contre 0,2% de la population des pays les plus pauvres. Au Chili, la population votait ce week-end pour élire les personnes qui rédigeront la nouvelle constitution. Un scrutin organisé après les grandes manifestations de 2019 et les Chiliens ont voté en majorité pour des candidats de la société civile, des femmes et des représentants du monde indigène. La constitution actuelle est celle écrite sous la dictature de Pinochet. Nous reviendrons plus en détail sur ce scrutin historique tout à l'heure dans le journal de 13h. Dans notre dossier, nous revenons donc sur la situation explosive au Proche-Orient. À l'affrontement militaire entre Israël et le Hamas, aux violents heurts qui opposent l'armée israélienne et de jeunes manifestants palestiniens en Cisjordanie, se conjuguent depuis quelques jours et sur le territoire israélien des émeutes entre les communautés juives et arabes. Les images d'agressions, de lynchages, de ratonnades ont choqué le pays, mais elles n'ont pas surpris le père David Neuhaus, supérieur des jésuites de Terre Sainte, professeur d'écriture sainte en Israël et en Palestine. On écoute son témoignage.
Nous vivons au cœur d'une blessure, une blessure non soignée, une blessure purulente depuis 73 ans. En 1948, ceux qui aujourd'hui sont des Juifs israéliens, ils ont eu leur patrie, un pays qui est réussi, riche, et la blessure est que les Palestiniens n'ont pas eu leur patrie. Ils n'ont rien reçu. Et cela continue depuis 73 ans, c'est-à-dire parfois il y a un type de tranquillité qui s'installe, une tranquillité due à deux choses, une violence et une répression contre les Palestiniens qui réclament leurs droits, ou une fatigue du côté palestinien qui les laisse dans l'inertie. Aujourd'hui, on ne peut pas être surpris, on ne peut pas dire « Ah, c'était inattendu ».
Encore une fois, l'étincelle est partie de Jérusalem avec ces affrontements aux alentours d'Al-Aqsa, les expulsions de Palestiniens du quartier de Sharjara. La question irrésolue de la ville sainte reste-t-elle, selon vous, la clé de ce conflit?
Bien sûr, Jérusalem est au cœur de la conscience et de la géographie d'Israël-Palestine. Et plusieurs éléments ont contribué à cette éruption de la violence que nous vivons actuellement. La question est certainement complexe. Ces propriétés appartenaient aux Juifs avant 48. Et au nom de cette appartenance, maintenant les Israéliens veulent chasser des Palestiniens qui vivent depuis dans ces propriétés. Bien sûr, l'injustice n'est pas dans les restaurations des propriétés à leurs propriétaires. L'injustice reste dans le fait qu'il n'y a pas un parallèle entre Juifs et Palestiniens. Parce que les Palestiniens qui résident dans ces propriétés ont perdu leur propre maison en 48 dans des zones qui sont devenues israéliennes. Le manque de parallélisme et la domination des terrains et de tous les pays au nom d'un côté uniquement reste aussi un grand problème.
Il y a un poids croissant des idéologies extrêmes, notamment du côté des sionistes religieux, des colons. Leur influence dans la société est-elle en train, selon vous, de bouleverser les équilibres?
Oui, les gens sont plus attirés peut-être aujourd'hui à ces idéologies radicales, mais il faut prendre en conscience aussi les manipulations des chefs israéliens, c'est-à-dire Netanyahou dans les dernières élections, a soutenu les droites extrêmes en espérant qu'après ils peuvent former un gouvernement avec eux. C'est des gens qui font peur, hein, des gens qui ouvertement disent mort aux Arabes, chasser les Arabes. Oui, il y a une certaine croissance, mais c'est manipulé par un premier ministre qui ne veut pas quitter le pouvoir. Et les gens sont manipulés par des politiciens qui n'ont pas de scrupules, qui n'ont rien à perdre. Et les gens payent le prix, hein, les gens, les innocents de deux côtés.
Depuis 1948, la communauté internationale est impuissante devant ce conflit. Selon vous, les Israéliens et les Palestiniens attendent-ils encore quelque chose de cette communauté internationale?
Bien sûr, on attend une voix qui pousse vers la justice. Vous dites impuissants. Il faut bien dire qu'ils ont choisi l'impuissance. Et si ces pays ont décidé de toujours se mettre à côté d'Israël, ça devient une grande question. Est-ce qu'on aide un pays à se suicider, à choisir toujours la violence? C'est mauvais pour l'État d'Israël. L'État d'Israël est en train de se suicider et la communauté internationale observe cette démarche vers le suicide.
Voilà, interrogé par Manuela Figi, le père David Neuhaus, supérieur des Jésuites de Terre Sainte. Ce dossier est évidemment à retrouver sur notre site internet. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est tout à l'heure à 13h. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine.